Bonjour à tous. Le Seigneur a mis sur mon cœur quelque chose qui c'est déjà dans ma vie depuis un certain temps, à travers les choses que j'ai pu vivre. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu que nous adorons, que nous servons, est le Dieu de toute éternité. Mais qu'il est aussi et surtout le Dieu de notre quotidien. Amen. Des petites choses de notre quotidien. Et donc, je voudrais introduire ce moment. Si tu peux mettre la diapo. Ecclésiaste 9.10. Dans Ecclésiaste 9.10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Ça m'a parlé à différents moments. Une autre version, donc la version Summer, nous dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts sur lequel, vers lequel tu es en route. » Et donc ces choses nous parlent effectivement de ce qu'on va rencontrer, de là où Dieu nous a mis, etc., etc., des petites occasions qui se prêtent chaque jour. Et vous avez pu en vivre. Et je crois que le Seigneur se sert de chacune de ces petites situations pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et souvent, nous avons parlé de douleur de l'épreuve, de difficultés dans nos vies. Et je peux vous dire que moi, comme vous, on a envie de sortir vite fait de l'épreuve. Non ? Et pourtant, chaque moment de chaque épreuve est un moment d'enseignement de la part du Seigneur. Et il ne faudrait pas gaspiller nos épreuves, en sortir rapidement sans avoir appris ce que Dieu voulait qu'on apprenne. Ce n'est pas de rester dans la misère, dans la difficulté pour dans un état masochiste, mais parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Celui qui est en apprentissage, ce qui va faire sa qualité, ce n'est pas le papier, bien sûr, le passeport du diplôme qu'il aura obtenu, mais c'est les compétences qu'il aura acquises petit à petit sur les 2 ans, les 3 ans, enfin, etc., de formation qu'il aura eue. Et dans notre cas, l'épreuve, elle nous enseigne. Amen. Et Dieu a des projets pour nos vies. Ah oui, donc maintenant on a la photo. Et donc il y a une petite main et une grande main. Et je peux vous dire que la petite main, elle n'a pas envie de lâcher la grosse main. Vous me comprenez? Je n'ai pas envie de lâcher la main du Seigneur, surtout quand l'épreuve est là. Et ça, nous avons parlé déjà plusieurs fois. De nous confier dans le Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, surtout quand les épreuves, les vagues ont tendance à nous submerger. Un matin, il y a, je ne sais pas, une semaine ou deux, je commençais ma journée, hein, les premières minutes de ma journée, voire les premières secondes, et puis j'étais un petit peu abattu, puis d'un coup, une pensée me vient, j'ai dit « Seigneur, toi, tu n'es pas découragé. Tu n'es jamais découragé. Et en me voyant, tu n'es pas découragé. Alors, je ne veux pas perdre courage non plus, parce que tu es là. » On a besoin de sa présence. On a besoin de tenir fermement la main du Seigneur, comme cette petite main. Donc, Dieu a des projets pour nos vies, et des projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Et chaque jour, il y a ces petites opportunités à la fois de nous rapprocher du Seigneur, mais de vivre ce que Dieu a voulu dans ces petites occasions. Et de s'associer surtout au projet de Dieu. Non pas à nos projets, mais à s'associer à ses projets. Et nous pourrions avoir cette prière, « Seigneur, je t'offre cette journée. Aide-moi à rentrer dans les projets que tu as préparés d'avance pour moi et pour nous. » Dans les projets que tu as préparés d'avance, qui sont écrits déjà d'avance. C'est dans cela que je veux marcher. Ce que je vais trouver à faire peut me surprendre, parce que avec le Seigneur, on est surpris, et j'aime bien être surpris par le Seigneur, parce qu'on peut trouver des choses à la fois trop simples, mais aussi peut-être trop compliquées, trop grandes pour nous, en tout cas on le pense, ou trop terre-à-terre, ou trop insignifiantes, et peut-être déroutantes. Mais puisque c'est juste devant moi, que ce soit un service à rendre, que ce soit une rencontre, puisque c'est là, eh bien, Seigneur, viens m'équiper pour l'occasion que tu me donnes d'être un vase d'honneur pour toi, eh bien, cela ça s'accomplisse. Et donc, bien sûr, je vais vous parler de rencontres humaines, mais il n'y a pas que ça. Et donc, prendre le passage de Matthieu 25, qui est la diapo d'après. Donc, du verset 34 à 40, un passage que vous connaissez très très bien, je suis sûr. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger ? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli ? Ou nu, t'avons-nous habillé ? Quand t'avons-nous vu malade ? Ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et plusieurs fois, enfin, les temps derniers, j'ai eu cette sensibilité de voir les choses d'une autre façon et de voir un besoin qui semblait peut-être anodin et puis et d'aider ce qu'on peut appeler quelqu'un qui a besoin, peut-être un plus petit que moi, c'est pas difficile, mais, vu ma taille, mais quelqu'un qui a besoin, quelqu'un que le Seigneur mettait sur mon cœur. Et cette sensibilité-là, je crois qu'elle ne vient que du Saint-Esprit. Et nous devons reconnaître cette voix de l'Esprit-Saint. Et dans ce passage de Matthieu 25, il y a avant la parabole des 10 vierges. Et donc, nous est expliqué, relaté la nécessité d'être rempli, renouvelé par le Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout. Et de connaître à travers l'Esprit de Dieu, le cœur de Dieu et ses intentions. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, là, aujourd'hui, devant moi, avec moi ? Mais aussi pour ceux qui sont autour de moi. Il y a aussi, ensuite, la parabole des talents que vous connaissez. Et donc, celui qui reçoit le plus petit talent, finalement, n'a pas su l'exploiter. Et finalement, ne connaissant pas bien son maître non plus, a fini par être rejeté. Et le Saint-Esprit en nous, ce qu'il crée de merveilleux, c'est qu'il nous attire de plus en plus vers lui, à le connaître, à connaître son cœur, au-delà des paroles que nous pouvons lire, et quelquefois beaucoup trop vite, mais que notre cœur, notre esprit soit ouvert aux intentions de Dieu, au cœur de Dieu dans ces choses, et dans les petites choses, que notre cœur soit ouvert. Seigneur, qu'est-ce que tu désires faire là ? Et alors, donc, le chapitre 25 aussi, il commence par « Alors le royaume des cieux sera semblable à... » Le royaume des cieux va ressembler à quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Et nous, si nous avons quelque chose d'utile à porter, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est dans ma tête, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris avec mon intelligence. C'est quelque chose qui a saisi mon cœur et qui doit continuer de le saisir. Alors ensuite, j'ai pris le passage d'Acte 3, que vous connaissez aussi. Bon, ce sont des magnifiques histoires, histoires, témoignages véritables de la façon dont Dieu est intervenu dans la première Église. Et Dieu n'a pas changé de plan, il veut toujours intervenir. Donc Acte 3, du verset 1 au verset 12. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux vers lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards vers nous ?» Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou notre propre piété, avions fait marcher cet homme. Et Pierre et Jean, c'était des gens ordinaires, très ordinaires. Vous savez que les 12 n'ont pas été choisis sur des capacités, peut-être de, comme Paul était quelqu'un qui connaissait pas. Vraiment la parole qui avait été enseignée, longuement enseignée. Les 12 étaient des gens vraiment très ordinaires. Mais nous servons un Dieu extraordinaire. Et le plus important, c'est ça, c'est pas de regarder à nos petites forces, à notre ordinarité. Ça se dit, ça? Bon, ça va. Parce que lui, il veut se servir de gens comme nous pour que toute la gloire lui revienne. Je vais prendre aussi 1 Corinthiens 1, 26-27. Et donc là, c'est Paul qui parle. « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et oui, les 12, ils étaient ordinaires, mais ils ont été baignés, vraiment baignés, dans la présence du Seigneur, de Jésus, mais aussi dans les intentions que Jésus avait quand il allait auprès des personnes. Lors du ministère de Jésus, c'est sûr qu'on pouvait voir les intentions profondes, les objectifs qu'il avait. Et donc, cette connaissance profonde du cœur du Seigneur les a équipés, les a enseignés. Mais n'oubliez pas qu'avant de commencer leur ministère à eux, ils ont dû attendre la Pentecôte. Mais pourtant, ils étaient des témoins, ils avaient tout vu, ou presque. Donc finalement, on pouvait dire qu'ils sont équipés. Eh bien non, parce que ça ne devait pas reposer sur leur force, mais vraiment reposer sur ce que le Saint-Esprit allait leur donner, les équiper. Et nous voyons, à travers les premiers discours, par exemple, de Pierre, comment cet homme, qui n'avait peut-être pas les talents d'orateur, a pu parler de la part du Seigneur, et 3000 hommes se sont convertis. Et Paul, lui, est un apôtre qui est devenu ordinaire, parce qu'il n'était pas tout à fait ordinaire auparavant, comme il était dit dans 1 Corinthiens 1. Et il dit donc dans Philippiens 3, donc 4 à 9, « Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Amen. Et donc si Paul pouvait dire ça, je crois que nous ne pouvons pas vraiment nous appuyer sur nos forces ou peut-être ce que nous avons appris, mais continuer d'être disposés à recevoir les paroles que le Seigneur nous donne et à éclairer cette parole qui nous était donnée, cette parole qui devient vivante par la grâce du Saint-Esprit. Et donc je vais revenir sur Pierre et Jean, donc dans Acte 3. Parce qu'en fait, ce sont des situations qu'on peut rencontrer. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient au bon endroit et au bon moment. Et le Seigneur permet des situations comme ça. Ces fameux rendez-vous divins, et où il ouvre des portes. Et puis, quelquefois, ça change notre quotidien. Donc, ils ont accepté. Ils se sont arrêtés. Le regard de cet homme boiteux et de Pierre et de Jean, les regards se sont croisés. Et dans les regards, il se passe beaucoup de choses, quoi. Parce qu'il y a une attention qui est déjà délivrée, quoi. Donc, accepter aussi de donner de l'attention. Ils vivaient leur vie, et donc ils faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire chaque jour, de se rendre au temple. Mais dans cette vie quotidienne, nous ne sommes plus seuls. Vous le savez, nous ne sommes plus seuls. Et nous avons donné notre vie au Seigneur. Et si nous l'avons donnée, c'est que lui maintenant en est maître. Et donc peut disposer des circonstances de notre vie. Et nous ne sommes plus les mêmes non plus. Et ce jour-là, le boiteux qu'ils avaient forcément croisé, parce qu'il se tenait là, il avait l'habitude, les gens savaient qu'il était là, ben, ils étaient passés sans doute quantité de fois devant lui. Et ce jour-là, les regards se sont croisés, et puis l'attention a été portée. Et c'est une occasion, une magnifique occasion. Et puis, c'est comme quand on joue au foot, ben, y a des belles occasions. Quelle belle occasion! Ah, le but était vite, et puis et bien, il a tiré à côté. Donc ben, on a raté la cible, et ça arrive qu'on perde des occasions. Donc on a besoin de cette sensibilité du Seigneur pour voir l'occasion déjà. Et puis il y a ce que moi j'appelle briser la glace dans une relation. Je ne suis pas très fort pour ça. Ma bien-aimée est bien meilleure que moi, donc souvent c'est elle qui brise la glace. Et puis après, une discussion peut s'entamer. Mais là, c'est le boiteux qui a brisé la glace. Il a parlé, c'est lui qui a demandé, quoi. Et quelquefois, il faut ces occasions-là. C'est encore une meilleure occasion, quoi. Ne pas être sous la pression de témoigner non plus. Parce que je suis chrétien, je dois témoigner. Oui. Mais pas n'importe comment. Parce que bon, je crois que dans Rennes, je ne sais pas combien de petits petits stands sont dans la ville et oui, ils témoignent, ils annoncent quelqu'un. Mais tous n'annoncent pas Jésus-Christ. Et la pression, cette pression, on l'a dans notre cœur, on a le désir de communiquer la bonne nouvelle. Mais on n'est pas sous une pression charnelle de « il faut que ». C'est d'abord une disposition de cœur, quoi. Sans ça, on va s'affronter, et puis ça va passer argument contre argument. Donc c'est le ping-pong. Donc finalement, puis on peut être déçu à la fin, parce qu'il y a eu un affrontement d'idées, mais pas une rencontre de cœur, quoi, d'esprit à esprit. Et si dans les personnes que nous rencontrons, il n'y a pas cette occasion de parler, il y a des occasions de prier, par contre. Ça, elles sont multiples. Parce que dans les gens que nous rencontrons, dans les situations qui nous viennent à l'idée, il y a quantité de possibilités de prier. On peut s'arrêter et dire « Seigneur, là, il y a quelque chose que j'ai envie de t'amener. » Je me rappelle d'un frère, ça remonte à plusieurs années. On marchait dans la rue, on voit un gymnase et des enfants qui étaient en train de faire du judo. Et puis lui, il a été saisi, il s'est arrêté. Il s'est dit « J'ai envie de prier pour ces enfants. Ben, »« Allons-y, on va prier pour ces enfants. » C'est tout simple. Et ensuite, donc, le boiteux, il a exprimé quelque chose. Et donc, c'est de reconnaître le besoin. Et en fait, souvent, le premier besoin qui est affiché, c'est pas le bon. Donc, il faut gratter derrière pour connaître le véritable besoin. Mais ça se fait dans la relation. Mais souvent, et on a l'occasion de l'entendre, bon, c'est comme ça, je peux le faire comme ça aussi, on vient quelquefois demander la prière et on va pas exprimer le véritable besoin. C'est étonnant, mais bon, c'est... Et donc, le Seigneur nous conduit à découvrir le véritable besoin. Avoir une foi simple aussi. Et puis, on peut se rappeler de Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en fait, c'est nous, témoins, mais toi, Seigneur, tu es Dieu. Nous faisons notre part de témoins, de parler de ce que tu as mis dans notre cœur. Mais toi, tu es plus puissant que nous pour toucher le cœur des personnes. Je te donne ce que j'ai reçu. Point final. Et donc, renvoyons le regard des personnes vers Jésus. C'est ce qui s'est passé au verset 12. Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme. Renvoyons le regard vers le Seigneur. Nous sommes juste des petits tuyaux, comme je le dis souvent, où la grâce de Dieu passe, où des paroles de grâce, de bénédiction passent. Dieu agit, et si Dieu n'agit pas de la façon dont nous espérions, Dieu est souverain. Il est responsable de son plan, beaucoup mieux que nous. Et continuons à prier. Le Seigneur connaît le dossier, si on peut dire. Il a le dossier entre ses mains. Et j'étais encouragé dimanche dernier, j'ai retrouvé quelqu'un, j'avais vu, donc c'était au culte en commun, que j'ai vu au moins la dernière fois il y a 2 ans, qui m'avait appelé pour recevoir de l'aide. Et donc il y avait eu quelques entretiens, il était venu à la maison, j'avais été chez lui, je crois qu'il était venu une fois ici, et puis perdu de vue. Il répondait plus. Bon, après, les difficultés qu'il vivait étaient vraiment très importantes. Et je le vois, dimanche dernier, il était sur le parking à faire la circulation. Et puis, il m'arrête. Il dit, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Alléluia. Donc, c'est des petites choses. On est dans notre itinéraire. Un endroit dans la vie de quelqu'un, et nous, et puis dans notre vie, il y a eu des personnes importantes dans notre vie qui quelquefois, n'ont pas dit grand-chose, mais qui ont dit les paroles qu'il fallait pour ce jour-là, pour nous mettre en route, en chemin. Ensuite, on va prendre le psaume 131. Ah, là, c'est bon ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un psaume de David. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en toi, en moi. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. C'est un psaume de David. Nous connaissons la vie de David avec ses hauts et ses bas. Mais cet homme, il était qualifié comme un homme ayant le cœur de Dieu. Seigneur, je vais être un homme avec ton cœur. Nous voulons ce cœur. Parce qu'à travers les choses qui vont arriver dans notre vie, nous avons besoin de regarder ce que David a fait. Et cet homme, il a écrit la moitié des psaumes. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'on voit bien qu'il prend sa part. Et la part de Dieu, il la reconnaît aussi. Je ne m'engage pas, dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Et je vous ai déjà dit, j'avais reçu pour le coup, d'Alexandre Tomy, quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Je ferai ce que je sais faire, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Dieu fera ce que je ne peux pas faire. Et longtemps, c'était au moment où j'étais agriculteur, où le monde du vivant, c'est un monde où on a notre tâche à faire. Mais comme c'est vivant, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et au-delà du vivant, de ce qui se passe sur notre exploitation, il y a tout l'environnement qui, n'est-ce pas, nous échappe également. Et ça m'avait aidé beaucoup parce que je ne fixais plus le regard de la même façon sur les circonstances. Je fais ce que j'ai à faire. Dieu fera ce que je ne peux pas faire. Et je peux vous dire, je fermais la porte de l'élevage. C'était matériel, hein. Je la fermais, j'avais cette prière dans mon cœur. C'était calme, je peux vous dire que je partais dans le calme et dans la paix. Et la simplicité du verset que je vous ai lu au début, « Fais ce que ta main trouve à faire », cette simplicité-là nous garde aussi des inquiétudes. Notre part est celle de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais par contre, ma petite main est accrochée à sa main puissante. Amen. Et donc, David, il fait sa part, et pour le reste, oui, sa confiance est en Dieu. Et il dit que j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Parce que notre âme qui n'est pas régénérée continue à nous envoyer des messages de « Mais tu ne te rends pas compte ! Il y a le feu, il y a ceci, il y a cela, il y a toujours quelque chose pour alerter, pour faire peur à notre âme. » Et David, il dit « J'ai imposé le calme. » Imposer, c'est quelque chose quand même. Et le silence à mon âme. De savoir que par moments, on a besoin de changer de chaîne. Ou d'éteindre tout simplement. Hein. Passez pas dans le mode zapping. Quelquefois, là, on ne suit plus rien du tout. Et comme ce matin, le matin où je vous disais, j'étais tourmenté un petit peu. Puis cette pensée qui me vient, mais Seigneur, t'es pas inquiété, toi. Mais non, Seigneur, t'es pas inquiété. Tu n'es jamais inquiet. Tu es tout puissant. pourquoi je m'inquiéterais ?
Alléluia.
Et donc nous avons besoin de commander à notre âme, parfois, le silence. Ce que Dieu dit est la vérité. Seigneur, enseigne-moi ta vérité, qu'elle soit au fond de mon cœur. Non pas ce que me dit les actualités de la radio, de la télé, du journal, de mes collègues, de ceci, de cela. Je suis ton enfant, la prunelle de tes yeux. Est-ce que vous pensez que le Seigneur va négliger la prunelle de ses yeux ?
Amen. Imposons le silence à notre âme.
Et donc oui, ça nous évite bien les inquiétudes. Et la simplicité de ce fait, ce que ta main trouve à faire, nous garde aussi des découragements. Parce que nos projets, quelquefois, nous emmènent dans des choses qui sont au-delà de ce que Dieu a voulu. Donc forcément, nous sommes épuisés, découragés. Et notre vision des choses, peu importe quelle que soit, ça peut être la vision pour nos enfants, ce qu'on veut, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous-mêmes. Eh bien, ça ne se passe pas comme on voudrait, et nous sommes découragés. Mais si j'ai fait ma part, Dieu, c'est sûr, fera la sienne. Et je dis souvent, je me rappelle d'où je viens, du cœur que j'avais, du cœur rebelle notamment que j'avais. Et si je veux changer le cœur de quelqu'un, moi, avec mes propres forces, je vais endurcir beaucoup plus le cœur rebelle qui est déjà bien installé. Non. Seigneur, il faut que... c'est Dieu qui parle, qui ouvre nos yeux sur cet état de rébellion. Et quand le Seigneur ouvre nos yeux, on tombe de haut. Mais par contre, là, on n'a plus envie d'y revenir. Donc ne soyons pas découragés parce que les choses ne se passent pas bien. Dieu connaît le dossier, comme je vous disais. Voilà, le résultat ne nous appartient pas. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ce n'est pas l'inverse. Ouvriers avec Dieu. C'est toi, Seigneur, qui a les plans, et c'est toi qui vas nous diriger dans ce que tu veux. Et bien sûr, vous savez qu'il y a quelque temps, dès le début de l'année, le verset qui a été donné à l'Église, c'est « Défrichez-vous un champ nouveau ». On a eu des ateliers donc le 3 mars. Robert reviendra dessus sur ce sujet la semaine prochaine. Mais moi, je peux vous dire que ce champ nouveau, eh bien, il est tout près de nous. Il est tout près de toi, de toi, de toi. Il est tout près de vous. Souvent, ce champ nouveau, il est tout près de nous. Et on commence par ce tout près de nous. Peut-être, ça peut nous emmener dans un pays à 10 000 kilomètres. Dans une autre ville, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur nous apprend par des petites choses et des choses qui sont immédiates. Donc, ce que ta main trouve à faire, c'est tout près, tout près, tout près, que le Seigneur nous rende sensibles à cette proximité et aux désirs qui sont dans son cœur pour que nous soyons des bons ouvriers avec lui dans son champ. Amen. Je vais prier pour nous tous, chacun d'entre nous, et que ce message, au-delà de ce que j'ai pu dire, puisse continuer d'œuvrer dans votre cœur. Amen. Oui, Seigneur, te louons parce que dans ton amour, Seigneur, tu nous as appelés les uns et les autres, Seigneur. Et Seigneur, je sais que tu nous aimes au-delà de tout ce que nous pensons et que tu veux nous amener dans un cœur à cœur avec toi. Et Seigneur, dans cette communion, dans ce partage avec toi, des choses qui sont sur ton cœur,
Ô Seigneur, nous voulons qu'elle soit sur notre cœur. Que tes intentions deviennent nos intentions, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent sur le quotidien, toutes ces petites choses, les personnes que nous rencontrons, les situations de témoigner, de prier, d'agir de ta part, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous moindre à nouveau. Ouais, Seigneur, c'est toi qui nous remplis, c'est toi qui nous envoies. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci de qualifier, de me qualifier, mais de qualifier mes frères et sœurs pour aller comme tu as demandé que nous allions, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.